voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Metinarditi. Ce soir, naissance d'un romancier.
Bonjour Metinarditi.
Bonjour Jérôme Clément.
Alors nous nous retrouvons pour cette quatrième émission dans ces avoués nus qui vous sont consacrés. Nous nous trouvons, comme les jours précédents, dans l'hôtel où vous descendez à Paris lors de vos séjours assez fréquents. Vous êtes, je le rappelle, pour les auditeurs qui nous ont suivis les fois précédentes et aussi pour ceux qui nous rejoignent ce soir, vous êtes un écrivain francophone. Vous êtes né en Turquie, à Ankara. Vous vivez à Genève et vous avez écrit une vingtaine de livres, 18 exactement. Donc j'anticipe un peu en parlant des deux prochains qui sortiront dans quelques mois, mais nous en dirons un mot plus tard. L'écriture est maintenant votre métier, après la vie des affaires, que nous avons exploré durant les dernières discussions. Nous avons parlé de votre identité, de cette vie avant l'écriture, de vos essais, et nous allons parler aujourd'hui de vos romans. Comment êtes-vous passé de l'un à l'autre? On l'a un petit peu vu à propos de La Chambre de Vincent, mais je voudrais que vous nous disiez vous-même comment vous êtes passé des essais à l'écriture romanesque où vous réussissez si bien.
Alors, je crois que c'est un petit peu comme pour la Première Guerre mondiale, il y a les raisons immédiates et les raisons profondes. La raison profonde, c'est que effectivement, au fil de l'écriture des essais, j'ai compris que ce qui importait, c'était le roman et pas l'essai. Que le roman est une forme beaucoup plus complète, beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde que l'essai. Que dans le roman, il y a une relation au lecteur qui est d'une toute autre intimité. Il y a une participation du lecteur à l'élaboration même du roman. Le roman doit laisser une place au lecteur. Et donc, déjà, ça veut dire que le travail est d'une toute autre intimité. Le roman inclut la philosophie. Simplement, il n'est pas question de la voir ni de sentir sa présence. Elle doit être comme la poudre de marbre, partout, mais invisible. Ça, c'était la raison profonde, et peut-être devrais-je ajouter aussi que c'est évidemment une forme de relation qui est, pour moi, infiniment plus enrichissante que celle didactique d'un essai.
C'est aussi la phrase qu'on a évoquée hier de Jeanne Hersch, qui, à propos de Machiavel, vous dit « Lisez l'idiot » voilà. De Dostoïevski, et vous verrez, ça sera plus intéressant.
Voilà. C'était un moment très, très clé dans mon rapport à l'écriture. Il y a les raisons immédiates, les raisons profondes. La raison profonde est que l'écriture d'un roman offre une relation au lecteur qui est d'une toute autre nature que l'écriture d'un essai. Elle est beaucoup plus intime, elle est plus profonde. Le roman oblige l'écrivain à transformer toute idée qu'il pourrait avoir, toute réflexion philosophique, en histoire. Et raconter une histoire, c'est quelque chose d'absolument essentiel de la condition humaine. L'écriture d'un roman rejoint tout ce qui relève de cet essentiel. Maintenant, la raison immédiate, c'est-à-dire le moment où il y a eu le déclic, c'est un peu le fruit du hasard. J'étais en train de lire les romans de Kafka et comme ce sont des romans extrêmement denses, je préparais un essai sur lui. Ce sont des romans extrêmement denses, et entre deux romans, j'avais pris l'habitude, je m'étais fixé une discipline, c'était de lire une biographie de Proust celle de Jean-Yves Tadier, qui est absolument splendide, tant dans le style que dans le fond. C'est une lecture très divertissante, très intéressante. Et voilà qu'un jour, en passant d'une lecture à l'autre, je remarque que à l'automne 1910, je crois que c'était en octobre ou en novembre, Kafka vient à Paris avec son ami Max Brod et doit, le lendemain déjà, retourner dardard à Prague parce qu'il souffre d'une furonculose aiguë, très douloureuse, qui l'oblige donc à rentrer. À la même époque, Proust faisait des allers-retours à Fontainebleau, qu'il avait retenu comme modèle de ville de garnison. Il faisait des repérages pour l'écriture de Jean Santeuil. Et je me suis demandé si ces deux-là ne pouvaient pas, au fond, se retrouver au café du train bleu avant le départ de leur train. J'ai imaginé une scène, je n'écrivais rien, c'était tout simplement dans ma tête, j'ai imaginé une scène où Kafka, anxieux du temps qu'il devrait mettre pour arriver jusqu'à son train, cherche à capter le regard du serveur du train bleu et n'y arrive pas. Et pour avoir une certaine expérience aujourd'hui du train bleu, je crois que les choses
n'ont
pas...
Et des serveurs dont on ne capte pas le regard.
Voilà, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Et j'imagine à côté de lui cet homme vêtu de plusieurs couches d'habits, le teint pâle, la respiration heurtée, difficile, qui l'observe, qui regarde Kafka. Kafka était un très bel homme, il était très sportif, il faisait beaucoup de natation, il était un très bel homme. Alors ce voisin le regarde, et puis d'un geste et d'un seul, interpelle le garçon qui vient à la table. Kafka règle sa note et puis demande à ce voisin « Comment avez-vous fait ?» Et j'ai imaginé que le voisin lui répondait « Une longue habitude des garçons, sans doute. » Je trouvais que c'était amusant et que ça nécessitait peut-être, que ça appelait peut-être l'écriture, je sais pas, d'une scénette, de quelque chose. Voilà, ça a démarré comme ça. C'était la lettre de début de Victoria Hall, lorsque dans le train de retour, Kafka écrit à Max Brod et lui raconte l'incident. C'est parti. Alors, comme ça.
C'est très intéressant, j'ai le livre sous les yeux. Effectivement, c'est le 17 octobre 1910... Et vous écrivez une lettre fictive, donc,
oui.
Mais avec un luxe de détails qui fait évidemment penser qu'elle est vraie, puisqu'il y a un astérisque à la première page, dans la version originale de la lettre, dit « Kreuzungen sind mein Kreuz », donc une citation allemande pour bien montrer qu'en fait c'est une lettre traduite,
oui, parce que le
en
train,
français dans le texte, un peu plus loin. Enfin, bon.
Le train avait ses vibrations quand il passait, n'est-ce pas, par des croisements, ça lui faisait très très mal aux fesses. Et j'imagine Kafka qui dit « Ces croisements sont ma croix
oui. ».
Je trouvais que c'était assez drôle que l'auteur juif parle de la croix. Je ne savais pas que plus tard, un juif serait chroniqueur à la croix. j'ai vu que la traduction en allemand était quasiment littérale. « Sie disent « Kreuzungen sind mein Kreuz ». Voilà.
c'est le début, effectivement, d'un très beau roman, Victoria Hall. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que vous dites. Une longue habitude des garçons, sans doute, en français dans le texte. Mais un peu plus loin, il y a une phrase qui m'a évoqué quelque chose. « Sans vous, j'aurais raté mon train. Vous avez interpellé le garçon avec une telle autorité. » Ah, l'autorité, c'est le père.
Ah bah oui.
Donc là, il revient toujours... voilà. Et d'ailleurs, vous parlez de la lettre au père de Kafka, un texte très 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 connu. Et dès le début du texte, aussi bien, alors on est dans la relation Kafka-Proust, et puis la lettre, cette lettre que retrouve Pavel Kutman, qui est l'antiquaire
de Prague,
qui cherche ensuite à négocier cette lettre avec un bibliophile amateur d'autographes qui a une collection absolument magnifique et qui demande avec un étonnement de la part de son acheteur potentiel, il demande non pas de l'argent, mais qu'il aide sa fille, Tatiana, une jeune soprano, à devenir une grande chanteuse.
Voilà.
Et donc le marché se conclut sur l'échange entre la lettre et le succès potentiel de la jeune fille, qu'il finira d'ailleurs par épouser, ou en tout cas par vivre avec elle, après un certain nombre de péripéties qui sont racontées dans le livre et qui nous mettent en fait dans le milieu à la fois du bibliophile et de la musique.
Et de la musique. Ça se déroule autour d'un concours de chant.
Autour du chant.
Genève, il y a un grand concours de chant chaque année depuis très longtemps.
Alors, on trouve dans ce livre beaucoup de votre marque de fabrique. D'abord, il y a un souci du détail extrême. C'est-à-dire que vous connaissez très bien le chant. Quand on lit le livre, on est avec le professeur dans la précision du travail de la voix, sur la voix, donc c'est tout à fait précis. On est avec l'antiquaire dans la collection et aussi dans la collection des bibliophiles. On est vraiment dans un univers qui est très précis, dans l'évocation des rues aussi, des villes. Ça se passe à Genève. Vous décrivez une ville que vous connaissez très bien puisque vous y habitez, mais vous décrivez les rues. Et donc on voit que vous avez un sens de la narration, de l'évocation, du milieu dans lequel vous situez vos personnages, qui prend le lecteur. Vous êtes, je le dis aux auditeurs, puisque je vous ai connu avant d'avoir, enfin j'avais lu Prince d'Orchestre, mais avant d'avoir lu tous vos livres, vous êtes un remarquable conteur. On est pris par cette atmosphère, et par cette histoire, et par les personnages, et on a envie de savoir ce qui va advenir de cette espèce de marché entre l'un et l'autre. Une question un peu par curiosité, mais c'est toujours intéressant. Où écrivez-vous ? Comment écrivez-vous ?
Partout,
parce que j'avais lu dans une revue que vous aviez deux bureaux, un au rez-de-chaussée, un au premier, plus un studio.
Oui, mais je veux dire partout. J'écris là, mais j'écris
plus
véritablement partout. J'écris en Grèce, j'écris dans ma chambre d'hôtel, en bas, dans l'ascenseur, s'il y a plus qu'un étage. J'écris absolument partout. J'ai toujours du travail avec moi, toujours. Je ne suis jamais les mains vides. J'ai toujours du travail, j'écris partout.
Ce premier roman a été remarqué, c'est un succès. Je crois même qu'il a eu un prix.
Oui, prix du premier roman.
Premier roman, effectivement. Et vous enchaînez ensuite. Parce que pratiquement, presque chaque année, l'imprévisible, en 2006,
la dernière lettre à Théo,
la pension Marguerite, la fille des Louganis qui se passe à Spetz, Loin des bras, en 2009, le Turchetto, qui est votre plus grand succès.
Sur le plan commercial.
En tout cas, à ce moment-là.
Et aussi, à ce moment-là, maintenant, l'enfant qui mesurait le monde, je crois que ça le talonne à peu près.
Enfin, oui. Voilà. Mais en termes de prix, il y a eu
beaucoup.
Non, mais pour le Turchetto.
Oui, pour le Turchetto, beaucoup. 25-30, c'est que pour le Turchetto.
Un livre très remarqué qui se passe à la Renaissance, qui se passe entre Istanbul et Venise, autour d'un tableau de Titien, enfin d'un élève de Titien. Et on retrouve alors là, tout ce dont on a parlé hier, on retrouve la Turquie.
Le bazar d'Istanbul.
Le bazar d'Istanbul.
Qui existait et qui existe aujourd'hui comme il était.
Donc on a des descriptions et aussi de la vie à Venise,
oui.
Qui est une ville dans laquelle vous allez souvent.
Souvent, je ne sais pas, mais j'y vais quand je dois écrire un texte sur une ville, j'y vais souvent. Donc là, à cette époque-là, j'y étais très souvent et longuement, et je suis retourné à Venise très souvent et longuement ces 24 derniers mois pour l'écriture d'un roman qui sera le prochain.
Oui, un nouveau roman pour cette rentrée, dont on parlera effectivement un petit peu. Mais alors là, vous avez dans toute la liste que j'ai donnée, il y a une douzaine de livres qui nous mettent dans différents milieux. Alors, on voit que il y a la musique et la peinture. Je dis la musique parce que j'ai relevé qu'il y avait la pension Marguerite, Prince d'orchestre, Victoria Hall, Loin des bras, et la peinture, l'imprévisible, le Turquetto, la confrérie des moines volants, et Juliette dans son bain aussi, qui est quand même une histoire autour d'un tableau, enfin de deux tableaux
oui.
qui sont donnés de Juliette par Picasso et Braque, et qui donne lieu à l'enlèvement. Donc c'est un roman policier en fait, on est quasiment dans une affaire policière, mais en même temps artistique. Et alors le milieu de la musique et de la peinture sont très très présents dans tous vos livres. Pourquoi vous avez choisi ces... Parce que vous auriez pu prendre des tas d'autres secteurs, mais c'est ceux-là que vous avez choisi.
Bon, j'en ai pris d'autres aussi,
oui.
N'est-ce pas
Oui, la fille des Luganis n'a rien à voir avec ça,
oui,
par exemple.
La confrérie des moines volants,
oui.
Ce sont des,
oui.
des moines orthodoxes russes.
Oui.
Mais c'est vrai aussi que chez les moines orthodoxes russes, il y a une dimension qui est très importante concernant la peinture. Ce sont les icônes. Vous savez que la peinture dite religieuse, la peinture sacrée, elle est très importante dans pour l'Église apostolique romaine. Les tableaux sont très importants, mais dans l'Église orthodoxe, l'icône a une autre importance. L'icône est elle-même objet sacré, ce qui est très différent. Et on enterre le croyant avec son icône préférée sur son ventre. Donc, j'ai parcouru plusieurs mondes. C'est aussi un grand plaisir dans l'écriture de prendre le temps
oui.
de découvrir.
Comment vous procédez d'ailleurs? Parce que j'ai lu quelque part qu'il y avait chez vous trois étapes. Vous pouvez nous les raconter?
Bon, il y a d'abord une étape consistant à réfléchir à une histoire, à imaginer un déroulement. Ensuite, il y a une phase de recherche qui est assez bien délimitée. La première étape dure quand même quelques mois. C'est quelques mois au cours desquels j'écris, je noircis des cahiers entiers de scénarios, jusqu'au point où ils sont vraiment assez précis. La deuxième étape, c'est la recherche. Et ça, c'est une étape qui est vraiment jubilatoire, parce qu'on est toujours gagnant. On n'est pas toujours gagnant quand on écrit, parce que des fois, on n'a pas bien senti son personnage, et il faut revenir, il faut jeter, il y a des poubelles pour ça, m'a dit un jour mon éditeur, il a raison. Et puis la troisième étape, c'est l'écriture en elle-même. La deuxième étape est vraiment très intéressante. D'abord, c'est un immense plaisir pour moi que de me lancer dans ce genre de recherche. J'ai le sentiment de redevenir étudiant. Et on est toujours gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et puis, il y a autre chose aussi qui me paraît essentielle, c'est le pacte avec le lecteur. Quand j'ai un livre où je découvre qu'il y a une tricherie, qu'il y a une facilité, je laisse tomber le livre. Avec le lecteur, il faut jouer réglo. Et donc, pour moi...
Ça veut dire
chaque
quoi, jouer réglo ?
Réglo, c'est-à-dire, on parle avec précision de choses qu'on connaît. Et on n'invente pas.
D'où cette documentation extrême sur les lieux. Toujours les lieux sont décrits
voilà.
avec une grande minutie,
voilà.
avec les voilà. milieux. Je parlais tout à l'heure du milieu du champ, mais c'est vrai de tout.
Alors, le champ, vous le savez, vous l'avez dit, pendant près d'une quinzaine d'années, j'étais pendant 18 ans à l'OSR, à l'Orchestre de la Suisse romande. J'étais son président pendant 13 ans, son vice-président oui. avant. Donc, j'ai beaucoup vécu dans le milieu de la musique.
On le voit dans le presse d'orchestre aussi.
Ce qui explique le milieu de la musique, ça n'explique pas la musique elle-même. Pour la musique elle-même, dans Prince d'orchestre, par exemple, je me suis fait beaucoup aider par Eva Routunian, qui est la directrice du Conservatoire de musique de Genève, et par Steve Roger, qui était l'administrateur général de l'orchestre. Pour le chant, dans Victoria Hall, j'ai assisté à un certain nombre de cours de chant donnés à une chanteuse professionnelle. Et puis j'ai assisté aussi à des concours de chant que je décris. Donc voilà, mais je n'arrive pas à dire ça c'est payé de sa personne parce que c'est un tel cadeau de pouvoir faire ces recherches.
C'est magnifique. Oui, mais d'ailleurs, vous le rendez très bien. On voit que c'est des choses que vous connaissez, que vous avez vécues et racontées. Alors il y a deux, trois, en dehors de la description, il y a deux, trois questions que je voulais vous poser, parce qu'il y a aussi beaucoup de livres dans lesquels il y a du cachet, il y a du secret.
Ouais.
Alors, dans L'imprévisible, c'est le double tableau, dans d'autres, c'est la lettre de Kafka, dans Marguerite, c'est l'alias, finalement, qu'on découvre dans un tiroir, dans La fille des Luganistes, c'est l'inceste entre le frère et la sœur. Bon, c'est très souvent... Voilà, il y a la question du secret et du cachet revient presque toujours dans vos livres.
Il faut dire pourquoi.
Un commentaire? Non, je sais pas. C'est une question que je me suis posée parce que c'est très frappant quand on prend un peu de recul sur
le
tout
secret, ça. Le secret, ce n'est rien d'autre que la vérité.
Voilà la réponse.
Le secret, c'est la vérité que l'on cherche. On passe son temps à chercher la vérité. Moi, je crois que l'écriture, c'est un processus... je crois fortement que l'écriture est un processus par nature kabbalistique, c'est-à-dire qui consiste à ôter un voile, n'est-ce pas ? C'est apocalyptique. On ôte un voile et on s'approche, on voit une esquisse de la vérité, on l'aperçoit un peu mieux. Une fois qu'on a fait cela, on ôte un autre voile, et puis encore un autre. L'incarnation de cette recherche, c'est le secret.
Oui, alors c'est vraiment très caractéristique de tout ce que vous écrivez. Il y a toujours un double fond à la malle. Et puis il y en a un troisième parfois. Et puis finalement, on a la clé à la fin. Où est la vérité ? Donc c'est vraiment ça qui me frappe beaucoup. Et souvent aussi, les correspondances jouent un rôle très important. Les lettres, les correspondances. On l'a vu avec Victoria Hall, ça commence par une lettre à Max Brod, et puis dans beaucoup de... C'est le principe aussi de Juliette dans son bain, parce que ce sont des lettres anonymes qui arrivent toutes les semaines chez les policiers, enfin chez ceux qui cherchent l'auteur de l'enlèvement, mais c'est régulier, on a toujours une lettre quelque part qui est une des clés, c'est deux choses qui m'ont frappé.
Les lettres, c'est parce que j'aime beaucoup écrire des lettres. Et ça me vient facilement. J'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup écrire des vraies lettres, c'est-à-dire avec un papier, un stylo, et les envoyer à des amis ou partager quelque chose. Ça me vient facilement parce que j'aime beaucoup le faire.
Oui, c'est un mode narratif aussi très... très utile. D'ailleurs, les lettres à Théo vous ont beaucoup inspiré.
Dernière lettre à Théo, c'est que une lettre. Oui. Voilà, absolument.
Et la lettre au père.
Donc mon père sur mes épaules, ça a commencé quand j'ai commencé l'écriture de mon père sur mes épaules. C'était sous forme de lettre, mais finalement, il y avait tellement de réflexions personnelles que vous l'avez peut-être remarqué, de temps en temps, je m'adresse à mon père avec une certaine colère, et ces moments-là sont inscrits en italique. C'est une lettre par fragment.
Oui, Mon père sur mes épaules, c'est un livre superbe, c'est un de vos derniers livres d'ailleurs, parce qu'il est sorti récemment, dans lequel il y a énormément de ce qui est central sur votre père. Et à la fois, vous vous adressez à lui et aussi vous livrez vos réflexions. Vous vous adressez à lui, je lis un petit passage, Ou vous le lisez, tenez, ça serait mieux que ce soit vous qui le lisiez.
En contradiction totale avec cela, tu m'as donné des leçons de sagesse inoubliables. Leben, leben lassen, me disais-tu, comme le principe selon lequel tu avais conduit tes affaires, vivre et laisser vivre. Tu étais d'une sagesse lafontainienne. L'apologue de la fable du héron ne dit rien d'autre lorsqu'il conclut par ces mots « Les plus accommodants, ce sont les plus habiles ». Fais gagner les autres et tu verras qu'ils voudront travailler avec toi, encore et encore. Jeden Tierchen sein Plaisirchen, à chaque petit animal, son petit plaisir, à chacun ses petites manies, ses petits travers. Ce qui pourrait t'irriter chez les autres, me disais-tu, regarde-le avec humanité, avec bonté. Tu n'en seras que plus heureux. Et puis encore ce que tu as écrit dans mon carnet de souvenirs sur le travail, un texte lumineux. Sans oublier le surtout humble, extraordinaire de sagesse, lui aussi. Pour toutes ces pensées qui illustraient ta force et qui continuent de sous-tendre ma vie, j'ai à ton égard une dette infinie.
Vous l'avez compris, c'est un texte très émouvant, très personnel, c'est un livre très émouvant, très personnel. On y reviendra parce que c'est vraiment au cœur de toute votre vie, d'ailleurs, de votre œuvre et de votre vie. La dette que vous avez vis-à-vis de votre père, mais aussi, c'est pas une relation simple.
Hein, non, il y a beaucoup de colère aussi.
Beaucoup de colère, oui. Beaucoup de colère. Et vous vous posez à un moment une question. On va terminer cette émission là-dessus d'ailleurs, parce qu'elle m'a beaucoup frappé aussi. Juste ce paragraphe, si vous le voulez bien.
Aurais-je pu changer quelque chose de ma vie si le rapport avec mon père avait été différent, semblable à celui de l'homme et de sa petite fille dans le champ de coquelicots? J'aurais pu en ressortir plus équilibré, ne pas être sans cesse dans l'angoisse, ne pas avoir honte de mes émotions. Cela m'aurait rendu moins solitaire, moins irritable, plus sympathique. Mes relations à autrui en auraient été moins heurtées.
Voilà, ça dit beaucoup de vous, ce texte. On va en rester là aujourd'hui. Cher Métinarditi, merci et à demain.
À demain, Jérôme Clément.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Métinarditi. À voix nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.